Je vous invite à prier pour que le Seigneur puisse encore nous parler au travers de sa parole. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Seigneur, cette parole que tu as incarnée, Seigneur, parce que tu l'as vécue vraiment comme la parole de Dieu, et tu nous as laissé cette parole, Seigneur, qui nous guide, qui nous conduit vers toi. Et nous te prions ce matin que cette parole puisse nous guider pour mieux te connaître ce matin. Tu as une parole pour chacun. Nous te prions que cette parole touche nos cœurs et nous aide à grandir dans ta présence, Père. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu chapitre 4 et nous lirons jusqu'au verset 11. 4, à partir du verset 1er jusqu'à 11. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit Saint dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : Si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent des pains. Jésus répondit : Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit : Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit : D'autre part, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Alors le diable le transporta encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes et si tu m'adores. Alors Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Alors le diable le laissa. Et voici que les anges s'approchèrent de Jésus pour le servir. On va juste lire au verset 17. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Je voudrais juste commenter les trois réponses de Jésus à Satan. Alors, Satan, on utilise le mot Satan pour parler de celui qui est contre Dieu, hein, l'adversaire. Le diable, c'est un mot diabolos qui veut dire double. Vous voyez. De toute façon, le diable est toujours double. Hein. Il a deux aspects, un aspect séducteur et un aspect destructeur. C'est sa caractéristique. Il vous séduit pour mieux vous détruire. Donc, le diable s'approcha de Jésus. Et Jésus a été tenté dans un moment de faiblesse, 40 jours, 40 nuits de jeûne. Et il eut faim. Ça montre qu'il était bien un homme. Vous voyez, un Dieu, il n'a pas faim. Déjà, c'est un esprit. Voilà. Donc on voit l'humanité de Jésus. Mais Jésus, contrairement à Adam, qui, le premier être que Dieu avait créé, a été tenté et s'est laissé tenter, Jésus ne s'est pas laissé tenter. Et c'est à cause de cela que nous avons un sauveur merveilleux dans le nom de Jésus. Tout l'évangile de Matthieu, puisque nous lisons dans Matthieu, est parcouru par ce terme « royaume des cieux ». Alors Matthieu utilise « royaume des cieux » parce que chez les Juifs, il ne voulait pas utiliser le mot de Dieu. Vous savez que le mot de Dieu, Yahvé, ce tétragramme, les quatre lettres, Y, etc., qui parle de Yahvé, n'était pas jamais prononcé par les Juifs. Donc le mot de Dieu, parce que voilà, les Juifs ont cette crainte de Dieu, hein, cette crainte respectueuse de Dieu. Et donc on utilise, Matthieu utilise cieux à la place de Dieu, mais c'est le royaume de Dieu qui d'ailleurs après est utilisé dans les autres évangiles, qui est la même chose. Et nous voyons que l'ensemble de cette terminologie royaume de Dieu est quelque chose qui étonnamment a été redécouvert, alors que c'est marqué dans les évangiles, il y a à peu près une cinquantaine d'années. Avant, donc il y a quand même 2000 ans d'histoire, avant le royaume de Dieu, maintenant ça paraît évident de parler de ça, encore que ce n'est pas encore accepté dans tout le monde évangélique, hein, mais depuis une cinquantaine d'années, c'est revenu, en particulier avec Jeunesse en Mission, qui avait parlé du royaume de Dieu, etc. Maintenant, ça nous paraît évident. Mais vous voyez, il y a des choses parfois évidentes qui ne le sont pas toujours, hein. Mais il faut bien comprendre ce que c'est que le royaume de Dieu. Alors, dans RMC, on est bien placé, parce qu'on a le même ADN de cette dimension-là. Et c'est quelque chose, bien sûr, qui est très vaste et très large, le royaume de Dieu. Quand on pense au royaume de Dieu, on pense voilà, bien sûr aux royautés. Aujourd'hui, on ne peut plus tellement penser au royaume de France parce qu'il n'y a plus de roi. Mais on pense au royaume d'Angleterre qui est encore la reine. En Belgique, il y a encore un roi. En Espagne aussi, bon, plus de pouvoir, mais ça existe encore. Donc on pense au roi, mais on ne pense pas à ce qui constitue le royaume, en particulier les sujets. Parfois, on pense au territoire. L'Angleterre, la Belgique, l'Espagne, mais on ne pense pas toujours aux sujets. Or, ce qui est important, c'est les sujets et le règne qui est exercé sur les sujets qui sont soumis au roi. Donc, c'est cette notion de règne de Dieu. Le règne de Dieu, Jésus le disait fréquemment à ses disciples, le règne de Dieu s'est approché de vous. Dieu y règne, de toute façon, c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui est à l'origine de toute chose. Puisqu'il a créé l'univers, et ensuite après, on voit dans Genèse, il a créé l'humanité, il a créé les anges, etc. Donc Dieu règne par définition, par nature de Dieu. La seule chose, c'est qu'il a fait des êtres qui sont libres. Vous et moi, nous sommes libres, nous avons une volonté. Et on le voit déjà quand les enfants sont petits, hein, les bébés, on sent la volonté, hein, qu'ils savent ce qu'ils veulent. Et cette particularité de l'homme, de ce qu'on appelle la volonté libre de faire les choix, est bien sûr quelque chose d'extraordinaire, puisque c'est l'image de Dieu, puisque Dieu est libre, hein, il fait ce qu'il veut, il est Dieu. Et quelque part, nous aussi, nous pouvons être Dieu. Et c'est pourquoi le diable... La première chose qu'il est venu dans le jardin, quand il s'est approché d'Adam et d'Ève, il a dit, vous savez, Dieu a dit, mais moi je vous dis que tu peux accéder à un niveau supérieur de ce que tu es là, tu peux devenir Dieu aussi, par ta volonté. Il suffit que tu choisisses ce que Dieu a interdit, parce qu'en fait, il a interdit, mais bon, voilà... pas trop faire attention, il a trouvé tout un tas d'artifices pour séduire, de manière à ce que, par sa libre volonté, eh bien, l'homme puisse faire autre chose que les limites que Dieu lui a signées. Parce que nous sommes limités, nous ne sommes pas Dieu, par nature. Donc il y a des choses qui nous font du mal, et Dieu savait qu'il y avait des choses qui nous feraient du mal. Hein. Le mal existe parce que eh bien, le bien existe. Et le bien, ce n'est pas la négation du mal, ce n'est pas le contraire du mal. C'est simplement une volonté de détruire. Et ça, c'est la nature de l'ennemi, la nature de Satan. Il veut nous la transmettre, cette nature. Et donc, il veut que nous mangions de ce fruit où Dieu a dit ne touchez pas à ça. Parce que vous allez mourir, vous allez entraîner eh bien, toute votre vie dans le désespoir. Mais la présentation que fait le diable est toujours très, très séductrice. Très séductrice. Sinon, on ne tomberait pas dedans. Si d'emblée, le diable nous présentait des choses qui sont mauvaises, on ne le ferait pas. Mais c'est toujours présenté de manière très, très agréable. Et c'est pour ça qu'on chute. Alors le diable a voulu faire ça avec Jésus. Mais là, il s'est planté. Parce que Jésus, lui, il avait l'amour du Père. Pourquoi Jésus n'est pas tombé? Vous êtes posé cette question? Pourquoi Jésus n'est pas tombé dans le piège? Pardon? Voilà, c'est la proximité avec son Père. C'est la proximité du Père. la proximité de son Père céleste. Vous voyez, c'est pour ça que dans le christianisme, on présente Dieu en trois personnes. Alors, on n'essaie pas de comprendre cela, c'est une réalité, mais notre raisonnement ne peut pas aller jusqu'à comprendre tout cela. Mais c'est présenté de cette manière-là parce qu'il y a une relation dans la Trinité. Une relation à l'intérieur du Père, du Fils et de l'Esprit. Et c'est cette relation qui fait toute la dimension de l'être humain à l'image de Dieu. Et parce que Jésus, avec cette proximité avec son Père, il est resté en relation en devenant homme, il a gardé cette relation très proche avec son Père, qu'il a été gardé. Alors, on va voir les trois tentations pour bien nous aider à voir quelles sont les priorités pour notre vie aussi. Et je propose qu'on ait ces priorités pour cette année particulièrement dans toutes les choses que nous allons faire ensemble pour que nous puissions rentrer dans la dimension que le Seigneur veut pour nous. Tout d'abord, le tentateur s'approcha de Jésus et lui dit au verset 3 « Si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent des pains. » Là, le tentateur, le diable en l'occurrence, il fait miroiter à Jésus quelque chose qu'il peut faire. Jésus peut ordonner à des pierres de devenir des pains, vous êtes d'accord? Parce qu'en plus, il est créateur. On sait que Jésus, il a quitté bien sûr sa place de Dieu pour devenir homme, mais il a cette capacité dans sa nature divine de pouvoir partir de n'importe quoi, faire des choses. C'est ce qu'il a fait, puisqu'on sait que quand Dieu, dans la Genèse, a dit que la lumière soit, et la lumière fut, eh bien c'est en Jésus qu'il l'a fait. C'est le Fils de Dieu, c'est lui qui est à l'origine de toutes choses, nous dit les Colossiens. Colossiens, chapitre 1er, verset 13, que toutes choses sont en lui. Donc Jésus pouvait le faire. Mais quel est le secret de sa réussite à ce moment-là, de refuser cette offre que Satan lui a fait? Est-ce que c'est le fait de ne pas obéir à Satan? Quelle est sa réussite? Quand il a dit à Satan cette réponse, il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Votre avis? Pardon? L'obéissance à son père. Voilà. D'autres réponses? Pardon? Absolument. Tout à fait. Toutes ces réponses sont justes. Le principe directeur de la réponse de Jésus, ce qu'il a animé, c'est effectivement de jamais obéir à une contrainte, quelle qu'elle soit. Là, c'est Satan direct. Hein, mais très souvent, il y en a déjà qui ont rencontré Satan direct. Il vaut mieux pas. Mais bon, il y en a qui l'ont fait, hein, qui l'ont rencontré parce qu'il existe. Hein. C'est pas juste une image comme ça. Très souvent, nous sommes séduits indirectement par l'œuvre de Satan, hein, qui dans le monde, il utilise le monde, hein, les choses du monde qui se présentent à nous, les événements, les circonstances dans nos vies, dans nos travaux, dans nos relations, pour nous pousser à faire des choses qui ne sont pas prioritaires. C'est pour ça que je parle des trois priorités qui sont importantes pour nous. La première ici de cette priorité, c'est la question de la parole de Dieu. Voyez-vous, il faut que nous soyons au fond de nous vraiment animés du désir de suivre la parole. Et que la parole. Et vous, là, on était à Reading, Bethel Church, et Bethel Church, en fait, avec Michel, on s'est vu revenir 20 ans en arrière, parce qu'on a pu bénéficier il y a 20 ans du ministère de John Wimber, qui était dans cette vague-là, enfin qui l'a démarré cette vague-là. Bon, pour votre information, Dieu réveille le peuple chrétien régulièrement, ce qu'on appelle des réveils, hein, comme le matin, comme vous vous réveillez, la sonnerie, tchou, vous vous réveillez, parce que vous êtes endormi. Et régulièrement, le peuple de Dieu s'endort. Hein. On pense que c'est que l'Ancien Testament, que Israël, c'était ça, mais nous aussi, hein, on est fait de la même veine qu'Israël, on est des êtres humains. Donc on a tendance à s'endormir. Vous avez remarqué ça? Hein, on se convertit, on est tout feu tout flamme pour le Seigneur et tout ça, puis petit à petit, on t'entend, il faut que quelqu'un nous réveille. Hein, et c'est l'Esprit qui nous réveille. Hein, donc ça s'appelle ça des réveils. Dans l'histoire de l'Église, il y a eu beaucoup de réveils. Hein. Le premier réveil, enfin l'évangélisation de la France, puisqu'on parle de la France, ça s'est fait à quel moment? Pardon? À quelle époque? C'est l'époque. C'est important de situer l'époque pour vous donner une idée. Je dis ça parce que comme on avait reçu des jeunes de CFNI et surtout de la Corée, j'étais très étonné de ce que j'entendais des Coréens qui disaient, mais oui, nous on connaît l'évangile que depuis le 19e siècle. Donc ça fait 150 ans, quoi. Bon, j'étais un peu choqué parce que je pensais que les missionnaires y étaient allés plus tôt. Mais voilà. C'est pas pareil quand une nation connaît l'évangile depuis 150 ans que nous, on le connaît depuis quand? 14e? Qui dit mieux? 4e siècle. 4e, réveillez-vous. Notre histoire chrétienne, elle a été amenée 4e siècle. Pour vous donner une idée, avec Michel, on était en Angleterre quand les enfants étaient petits. Et on était dans la ville de Bath, Bath, hein, Bath, qui est à côté de Bristol, donc sud-ouest. Voilà. Grande ville, très belle. Et à côté, il y a, juste à côté de Bristol, il y a Bath, qui est une ville qui était construite par les Romains. Et c'est une ville extraordinaire, hein, où les ruines sont pas des ruines, on voit vraiment les constructions de l'époque. Et à un moment donné, Michel, qui est très très curieux, il voit des petites pièces de monnaie comme ça, où c'était écrit dessus, qui était tombé dans l'eau, qui c'est écrit dessus, si tu es chrétien ou pas chrétien, et ça datait du 2e siècle. Allez. Donc ça veut dire qu'au 2e siècle, l'évangile était déjà arrivé en Angleterre. Et c'est normal parce qu'il y avait des bateaux qui partaient de Rome, enfin de la Méditerranée, qui montaient en Angleterre. Et les missionnaires sont arrivés en Angleterre très tôt, même avant la France. Donc vous voyez, c'est très tôt. C'est très tôt. On fait quand même partie, enfin pas loin du bassin méditerranéen. Hein. Marseille, d'ailleurs, Paul devait aller à Marseille. Hein. Non, même déjà avant Paul, Jonas. Hein. Il est parti pour Marseille ou l'Espagne, je ne sais plus, enfin de cette destination, et il a dû retourner dans l'autre côté. Donc, on est dans ce bassin méditerranéen très proche où l'évangile est arrivé très tôt. Donc, dans notre pays, on a commencé au 4e siècle à être évangélisé. En particulier Martin, qui au 5e siècle, 453, a eu un réveil absolument impressionnant dans ce pays. Mais il y a Patrick, il y a enfin, tous les saints, si vous voulez. L'Église catholique, après, les a nommés les saints. Mais nous sommes tous des saints. Hein. Donc Patrick, Martin et tout ça, de Tours, c'était des gens qui ont évangélisé. Enfin, Irénée de Lyon, le premier évêque qui avait pratiquement l'évangile de Jean en deuxième main, vous voyez, très tôt. Et Irénée de Lyon, lui, il a développé les quatre évangiles. C'est lui qui les a constitués pour que ce soit le canon, donc la base de notre foi dans la parole de Dieu. C'est Irénée de Lyon qui l'a écrit et qui a défendu la foi contre les hérésies qui ont lieu dans toutes les époques. Il y a des hérésies, hein, contre la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est quelque chose de très, très, très important et il faut vraiment se baser sur la parole. Après, il y a le Saint-Esprit qui nous fait faire des expériences avec Dieu. Okay? Donc le Saint-Esprit a particulièrement soufflé. À quel moment? La première fois qu'il a soufflé, c'était quand? La Pentecôte. Mais le Saint-Esprit, c'est par grâce au Saint-Esprit que nous pouvons naître de nouveau. Jésus le dit à Nicodème. Donc le Saint-Esprit est un élément important dans notre expérience avec Dieu. Et les réveils successifs, donc un grand réveil qui a eu lieu, c'était quand? Parce que vous savez, l'Église catholique, elle a en fait vécu pendant 15 siècles, voilà, 15 siècles, sur cette foi chrétienne. Mais pendant 15 siècles, on peut s'endormir, hein. Et donc l'Église catholique s'est endormie à tel point que c'était une catastrophe aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passait au temps de Luther. Voilà. Au temps de Luther, c'était horrible, ce qui se passait dans l'Église catholique. Et c'est pour ça que Luther a réagi. Luther a, il a réagi, il s'est réveillé et il a fait ce qu'on appelle la réforme protestante. C'était à quelle époque? Quel siècle? Pardon? 16e siècle. 1517, exactement, où il a placardé ses thèses sur les églises. 1517, le réveil protestant. Il a réaffirmé tout simplement des principes de base. L'écriture seule, la foi seule, Jésus seul. Vous voyez, c'est les cinq soli, les cinq seuls de la foi chrétienne pour balayer tout le reste, les prières des saints, etc., etc. Mais l'Église protestante s'est endormie aussi. Tout le monde s'endort pendant un certain temps. Donc il a fallu d'autres réveils. Quels sont les autres réveils que vous connaissez? Il y en a qui ont entendu parler de Wesley? À quelle époque? John Wesley. Imaginez la République française, hein, 1789. Il est né en 1785, je crois. Et John Wesley, il a fondé un mouvement. Comme souvent, c'est des sobriquets, hein. Les chrétiens se sont appelés chrétiens parce que quand ils étaient à Antioche, on les appelait des petits Christ. Des petits Christ, c'est chrétiens, et c'est pas les chrétiens qui se sont nommés chrétiens, mais on les a nommés chrétiens. Et là, les disciples de Wesley, on les a nommés les méthodistes. Vous avez déjà entendu parler des méthodistes? Voilà, parce qu'ils ont une méthode. Parce que voilà, une méthode surtout de la sanctification. Et donc c'est les méthodistes. Aujourd'hui, si on entend les méthodistes, en général les méthodistes aux États-Unis, c'est les présidents américains qui sont méthodistes, enfin Bush, Obama, tout ça, ils se sont aussi endormis. Hein, et tout le monde s'endort, hein, là-dedans. Il faut se réveiller. Hein. Voilà. Donc bon, je passe un peu l'histoire. Et quel est le grand mouvement du Saint-Esprit qui a eu lieu en 1900? Donc au XXe siècle, donc là on est beaucoup plus proche. C'est quel mouvement? Non, pas charismatique. Qu'est-ce qui est dit pentecôtiste? Oui. Et pourquoi? Oui, parce qu'il s'est passé en 1906 à Azusa Street, à Los Angeles, on n'était pas loin, la même chose qu'à la Pentecôte avec les apôtres. Le parler en langue, qui est un langage incompréhensible, mais qui peut être compris par d'autres personnes. Hein. Michel, entre autres, avait un pasteur à Rouen qui a parlé un parler en langue d'un arabe littéraire, alors qu'il n'a jamais fait d'études, quoi que ce soit, quelqu'un qui était dans la salle et qui a décrit toute sa vie et qui s'est converti ensuite, c'est un arabe. Voilà, bon, on peut raconter des millions, des milliards d'histoires comme ça. Donc le parler en langue a été redécouvert en 1906 à Azusa Street. On appelle ça la première vague du réveil de Pentecôte. Donc voilà, première vague. Après, il y a une deuxième vague de réveil, qui est laquelle? Charismatique. Dans quelles années? Non, Billy Graham n'a rien à voir là-dedans. C'est un évangéliste, hein, il est en dehors des mouvements de réveil. Lui, il prêche l'évangile, mais 60, 60. Ça a commencé déjà à 60. Hein. Et d'ailleurs, le Concile Vatican II, chez les catholiques, est un élément de ce réveil. Hein. vous savez, le Concile Vatican II a beaucoup divisé l'Église catholique et le divise encore. Hein. Ah oui, c'est très très fort, hein, parce que le Concile, ceux qui sont pas pour le Concile, il y en a qui sont contre le Concile, encore aujourd'hui, hein, qui reviennent avant le Concile, ça s'appelle des préconciliaires, ils disent que c'est satanique, le Concile Vatican II. Pourquoi ? Parce qu'ils disent que les catholiques se sont protestantisés. Forcément, en cas de Concile Vatican II, il arrête les messes en latin et tout ça, et dit vous pouvez lire vos Bibles en français. Ouais. Pour nous, ça paraît évident. Ça remonte à la Réforme. Pour les catholiques, c'est Vatican II. Ma mère, elle n'a jamais lu la Bible. C'était interdit par les prêtres. Il n'y a que les prêtres qui avaient le droit de le lire. Et donc, voilà, le Concile Vatican II, c'est un mouvement charismatique. C'est-à-dire le Saint-Esprit est tombé, si on veut dire tombé, est venu sur les institutions chrétiennes, catholiques, anglicanes, luthériennes, réformées, presbytériennes, méthodistes. Vous voyez, toutes les églises institutionnelles ont été baptisées dans l'esprit, parlées en langue. Par exemple, un curé... On le connaît bien, parce que des anciens, on était quelques anciens pour établir l'église des CCY à Orgeval, et un couple d'anciens, les Fenet, ils étaient directeurs et directrices d'école au Vésinet, et dans leur église, une grande église catholique, le curé, il se déplaçait en deux chevaux, comme beaucoup de curés à l'époque, déplaçait en deux chevaux, et d'un seul coup, le Saint-Esprit tombait sur lui, et il parlait en langue, il ne savait pas ce qui arrivait. Mais il y a le feu qui est descendu dans cette église et il y a des cars entiers qui venaient de Belgique pour venir au Vésinet pour écouter. Il y a un réveil qui s'est produit. Et dans cette époque-là, effectivement, le Saint-Esprit est venu sur toutes les églises institutionnelles qui étaient figées dans le marbre ou dans ce que vous voulez, dans les statues. Voilà. Et le Saint-Esprit a soufflé. Il s'est passé un grand, grand réveil de l'Esprit. Deuxième vague. Et là, on parle d'une troisième vague. Et c'est nous, on était à Bethel pour la troisième vague. C'est la troisième vague. Et la troisième vague a été démarrée par John Wimber, Peter Wagner plus exactement, puisqu'il a écrit des livres. Et dans son livre, il a parlé des signes et des prodiges, des miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. C'est pas nouveau, puisque l'église de Pentecôte... Effectivement, ils ne voyaient que des signes et miracles, puisque sur leurs enseignes, ils mettaient « viens et vois ». Maintenant, ils les ont retirés, parce qu'on ne voit plus grand-chose. Mais à l'époque, oui, parce que tout le monde s'endort, hein, c'est une règle générale. Donc avant, il y avait marqué « viens et vois ». Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait que des miracles et que des signes. Ma femme, Michel, elle est miraculée, sa sœur est miraculée, sa mère est miraculée, son père est miraculé, tous des miracles, quoi. Et juste comme ça, un frère qui vient en disant « sois guéri » et puis il part et t'es guéri, quoi. Voilà, c'est des signes et des miracles qui viennent de la part du Seigneur. Et donc, dans cette troisième vague, en 1980, 83 plus exactement, on commençait cette troisième vague. Et nous, avec Michel, on a pu être au bénéfice de cette troisième vague avec John Wimber dans les années 90, où il venait régulièrement pour réveiller l'église anglicane, qui maintenant est complètement transformée en Angleterre grâce à cette vague, et les parcours alpha sont nés de cette vague-là. Je me rappelle quand on était à John Wimber, il y avait une église qui s'appelle Holy Trinity Brompton à Londres, hein, qui est une église anglicane avec des gens du gouvernement, enfin des gens, voilà. Pratiquement que dans cette église, il n'y a que des deux pièces, vous voyez, businessman, gouvernement, etc. Enfin, c'est une anglie, parce qu'il y a différentes églises anglicanes. Et le pasteur, quand il nous a témoigné ça à Londres, il a dit, quand le Saint-Esprit est tombé, ils sont tous tombés par terre, y compris lui. Et quand pendant des heures, ils étaient plaqués au sol, et quand le téléphone sonnait, ils ne pouvaient même pas répondre au téléphone, ils ne pouvaient pas se déplacer. Hein. Et c'était absolument incroyable. Et cette église était complètement transformée par la puissance et le réveil du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, ça a donné lieu à ce parcours alpha qui en est issu suite à cette transformation par le Saint-Esprit. Et donc l'église Bethel est dans cette vague, c'est pour ça qu'on y est allé aussi, que vous nous avez envoyé, pour voir qu'est-ce qu'on pouvait tirer de cette vague pour nous. Mais j'avoue qu'on a pas appris grand-chose de plus que ce qu'on avait vu avec John Wimber, puisque c'est vraiment le Seigneur qui l'a utilisé de manière puissante pour évangéliser. Hein, c'est une puissance d'évangélisation. Et John Wimber, dans son livre, il l'intitule « La puissance pour évangéliser hein ». Voilà. Parce que l'objectif, c'est que les signes et miracles ne soient pas pour nous, mais soient pour que les gens puissent être sauvés. Amen. Je ne sais pas si vous vous rappelez un pasteur qui était venu, qui est à Brest maintenant, Michel Pelletier, pardon, maison de retraite, oui. C'était un ami des parents à mon épouse, et lui, il a vu des résurrections dans son église. Alors, vous savez, quand vous avez quelqu'un qui est ressuscité, puis que vous avez des gens qui sont contre l'évangile, vous dites simplement, vous êtes contre, mais attendez, il y a quelqu'un qui ressuscite des morts qui va vous témoigner. Ça fait bien, hein, ça met tout de suite les gens en part. Hein. Voilà. Vous voyez, la puissance de Dieu qui est aujourd'hui actuelle, comme elle l'était et comme elle sera toujours, grâce au royaume de Dieu, règne de Dieu. Amen. Et ça, il faut y croire. Il faut y croire. Même si nous ne le voyons pas de manière aussi constante, le Seigneur est toujours le même. Amen. C'est simplement notre incrédulité qui empêche ces choses d'arriver. Donc il faut que nous puissions le croire. Et ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Et Jésus dit à Satan, eh bien, tu me demandes de transformer ces pains-là. Hein, je peux le faire. Mais ce qui est le plus important, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas les choses matérielles qui sont importantes. Les choses matérielles, le Seigneur pourvoit. Il dit, ne vous inquiétez pas. Mais occupez-vous de ma parole. Et donc il faut que nous soyons des hommes et des femmes de la parole de Dieu. Amen. Et cette parole de Dieu va nous garder de l'erreur. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous garantir que l'erreur, elle est partout. Partout. On était confronté à l'erreur pendant ces 3 semaines. Et le Seigneur nous a montré vraiment le discernement de l'esprit. Il faut vraiment du discernement de l'esprit. Parce que les plus grands hommes de Dieu sont complètement séduits par Satan, Lucifer, hein, qui s'appelle le porteur de lumière, et il est toujours à l'œuvre. Donc il faut que nous soyons sur la parole et que nous n'obéissions pas à n'importe quel mouvement intérieur ou extérieur à nous, d'émotion. Nous ne soyons pas portés par les émotions, que nous soyons portés par la parole. Amen. Deuxième chose, l'esprit le transporte sur une ville et dit « jette-toi en bas ». Et les anges vont venir. Pourquoi ? Parce que ton père va pas te lâcher. Est-ce que c'est vrai ? Oui, oui, c'est vrai. Et Jésus le savait, que son père allait prendre soin de lui, même s'il était dépossédé de toute l'autorité divine qu'il avait. Mais voilà ce qu'il répond. Il dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Quelle est cette deuxième clé ? La première clé, c'est la parole, l'autorité de la parole. Jésus l'affirme. Tu ne mangeras pas, d'abord tu te nourriras de la parole et le reste suivra. Cette deuxième tentation, elle aborde quel sujet ? Alors l'identité, ça peut être une réponse. Est-ce qu'il y a une autre réponse que vous auriez pour cerner cette tentation et la réponse que Jésus a donnée et qui pour nous doit être une priorité ? Parce que Satan lui a dit une vérité, hein. Jésus, Dieu aurait envoyé des anges. Pardon ? Voilà, tu touches le centre du problème, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est pas la peur de Dieu. C'est quoi ? Le respect. Moi, j'ai vu dans ma faible carrière de pasteur, mais confirmé par d'autres, que les gens qui peuvent être gardés de l'erreur, c'est ceux qui ont la crainte de Dieu, le respect de Dieu. Dieu, c'est pas notre copain. Okay ? Dieu, on ne lui tape pas sur l'épaule en disant « oui, oui, oui ». Non, on ne peut pas tenter Dieu comme ça. Hein. Dieu peut tout faire, c'est vrai. Mais il faut le respecter, avoir de la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est beaucoup ce qui manque chez les chrétiens. On traite Dieu comme ça. Alors, on banalise les choses dans l'Église. Et du coup, il y a du laisser-aller chez les chrétiens, dans l'Église, etc. Bon, c'est un sujet que je vais aborder, j'ai pas le temps. Mais juste pour vous montrer que Jésus dit, attends, toi, tu dis de faire ça, mais c'est de la tentation. C'est d'obliger Dieu à faire quelque chose. Alors que moi, Jésus, je suis en relation avec mon Père, je fais ce que mon Père me demande. S'il me demande de sauter, je saute. Mais il me peut demander, c'est toi qui me le dis. Et ce serait de ne pas avoir la crainte de Dieu. Et c'est quoi la crainte de Dieu? C'est le commencement de quoi? La sagesse. Voyez-vous, si nous voulons avoir de la sagesse dans notre vie chrétienne, il faut commencer par la crainte de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui manque beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'Église aujourd'hui. Et je respecte, bien que l'Église catholique soit dans l'erreur, pour beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de crainte. Et on avait un pasteur qui venait de l'Inde, Josué Daniel, qui est mort maintenant. Lui, il avait des résurrections des morts en pagaille dans son Église. Et quand il y a les communistes qui venaient pour tout casser, il faisait ça. Il disait, mais tiens, ceux qui sont ressuscités des morts, vous vous levez. Et les communistes étaient cloués sur le siège. Mais il disait que je préfère les catholiques parce qu'ils ont la crainte de Dieu plutôt que ceux qui viennent d'ailleurs, qui souvent se convertissent. Ils ont appris la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est respecter Dieu pour ce qu'il est. C'est pas notre copain. On lui tape pas sur le dos, on lui dit pas ceci, cela, etc. à faire. Voyez. Et la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Et Jésus le dit ici. Il dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Troisième sollicitation, le diable transporte bien pour lui montrer tous les royaumes de la terre. Alors ça c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça montre qu'aujourd'hui, le prince de ce monde, c'est pas Dieu, c'est pas Jésus, c'est le diable. Okay, ne nous trompons pas. Celui qui dirige le monde, c'est le diable. Alors, je vous choque, non? Une révélation? Non, le prince de ce monde. Jésus le reconnaît. Il dit pas non, 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 ce que tu me dis, c'est faux. Jésus, c'est la vérité. Si c'était faux, il lui aurait dit. Il dit non, non, ces royaumes ne t'appartiennent pas. Et pourquoi est-ce qu'ils appartiennent à Satan? Pourquoi est-ce que le monde appartient à Satan? Pourquoi est-ce que le monde appartient au diable? Pardon? Voilà, j'appelle ça le droit. Le droit lui a été donné. Le droit lui a été donné. Et là, on rentre dans la notion de combat spirituel. Et ça, c'est une grande lacune à Bethel. C'est que il faut pas mésestimer la puissance du diable. Job, vous lisez Job, chapitre 40, 41, 42. Vous voyez que Job, Dieu lui dit, ne rigole pas. Ne rigole pas avec le diable. Il est plus malin que toi. Il ne faut pas croire que le diable il a perdu de sa capacité. Hein. Il l'a même affiné avec le temps. Donc le diable est toujours présent. Mais nous avons bien sûr la victoire en Jésus. Mais si nous respectons le droit a été donné par les hommes pour lui donner ses royaumes. Pour les reprendre, il faut enlever les droits. Et ça, c'est du combat spirituel. Ici, on l'a connu. Ce lieu était un lieu où Satan pouvait faire ce qu'il voulait. Il avait les droits. Et on s'en est aperçu quand on a eu le local. Hein. On n'a eu que des problèmes. Que des problèmes. Jusqu'au jour, en 2002 exactement, le 4 avril 2002, on a eu la victoire. On a pu retirer les droits parce qu'on les a connus. On ne savait pas quels étaient les droits. Et quand Dieu nous a révélé, on a retiré les droits par quoi? Par là. Repentance. Sans la repentance, c'est enlever les droits. C'est se repentir. Dire Seigneur, j'ai donné des droits, je les retire. Ou mes ancêtres ont donné des droits et je les retire. Je les retire et je renonce à ces droits pour me soumettre à tes droits à toi, à ta parole. Et là, on est dans le combat spirituel. Et là, on peut avoir la victoire. C'est pas parce que nous, on se croit puissants, c'est parce que les droits sont retirés. C'est tout simple. Quand j'ai compris ça, je dis waouh! Et c'est un frère de l'église que Dieu a mis, il s'appelait Ricardo, il est d'ailleurs toujours dans la région, et il m'a dit André, la victoire on l'aura par acte 19. Je dis acte 19, c'est quoi? Eh oui, acte 19, c'était Paul qui était confronté à Artémis d'Éphèse. Et. C'est l'ensemble, on a mis un an hein, pour avoir la victoire, mais c'est exactement acte 19 qui s'est déroulé et on a les victoires à la fin, exactement comme Paul dans acte 19. C'est le droit, retirer les droits. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui fait partie d'une compréhension des droits que Satan a reçus. Et là, Jésus ne conteste pas le fait qu'il a tous ces royaumes, mais simplement, il n'accepte pas d'adorer Satan pour les recevoir. Parce qu'il sait que de toute façon, il va les recevoir du Père. Par quoi ? Par la croix. Oui, c'est la croix. À la croix, les droits ont été retirés. Parce que le péché, qui est l'inverse du droit, qui est le... Comment on appelle ça là ? Quand on... Je cherche le mot. voilà, quand on ne respecte pas les droits, on les usurpe. L'usurpation du droit, l'usurpation, voilà, on enfreint les droits. Eh bien, Jésus a pris tous ses péchés sur lui et il les a cloués à la croix. Et c'est à la croix que nous avons victoire. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus-Christ est notre sagesse. Parce que la sagesse de Dieu s'est révélée en Jésus-Christ et c'est lui qui l'a annoncé la croix. Et c'est ça que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. Il dit les Juifs cherchent des miracles, des signes, des miracles. Les Grecs, ils cherchent la sagesse. Mais nous avons la sagesse qui est en Jésus-Christ, c'est la croix. Amen. La croix est le centre de notre victoire. Amen. C'est pour ça que Jésus est venu. Et c'est pour ça que Jésus lui va dire à Satan, retire-toi, car... Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul, tu rendras un culte. C'est l'idolâtrie qui est la troisième clé. Nous devons nous préserver de toute idole. Mais l'idole, c'est plus tellement la statue. L'idole, c'est tout ce qui est adoré en dehors de Dieu. Tout ce qui est plus grand dans notre cœur, ça peut être nos enfants, ça peut être notre travail, ça peut être notre image, ça peut être tout un tas de choses qui nous passent par la tête et qui passent avant Dieu. Et ça nous retient de la victoire. Parce que nous ne pouvons plus être maîtres de nous-mêmes. Nous sommes pris dans nos propres liens, dans nos ténèbres. Et il faut que toute idole soit déracinée dans nos vies. Et c'est pour ça que nous avons le torrent qui purifie, pour nous aider à identifier les idoles. À identifier, parce que la première leçon, c'est marcher par l'esprit. Mais pour marcher par l'esprit, il faut discerner qu'est-ce qui nous empêche de marcher par l'esprit. Et c'est les idoles de nos cœurs. Et là, Jésus dit, eh bien, il ne faut qu'il n'y ait aucune idole. Et à chaque fois que dans l'Ancien Testament, on voit que, ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, c'est quand les idoles sont arrachées que la présence de Dieu peut venir. Amen. Et si nous voulons la présence de Dieu, si nous avons la puissance de Dieu, si nous avons la manifestation du royaume, il faut que toute idole soit brisée dans nos vies. Amen. Et pour ça, on a besoin les uns des autres, d'être soumis les uns aux autres. Et il ne s'agit pas de faire de la chasse aux idoles. Hein. Ça aussi, c'est un excès hein, qu'ont connu les Quakers. Ils pensaient que les idoles, c'était des femmes un peu bizarres et tout ça, voilà, qui avaient des visions, tout ça, des sorcières et tout. Non, non, l'idole, c'est dans mon cœur. Ça peut être mon mari, ça peut être moi-même, ça peut être, vous voyez. C'est quelque chose qui n'est pas en premier, qui prend la première place de Dieu. Il faut que Dieu soit en première place et Dieu seul. Et ça, c'est le travail de la sanctification. Ça ne se fait pas tout seul. Il faut du temps. Mais nous devons y accéder. Donc les trois priorités pour nos vies, et je vous propose de les garder dans votre cœur, c'est un, la parole de Dieu, et que la parole, qui doit être la référence de nos expériences, pour toute expérience. Deuxièmement, cette intégrité de la crainte de Dieu, de ne pas être présomptueux de la puissance de l'ennemi, mais de dire Seigneur, avoir toujours cette humilité devant le Seigneur et devant ce qu'il fait. Et cette sanctification, où le Seigneur veut enlever toutes les idoles de nos cœurs pour que nous puissions l'adorer lui seul, comme Jésus l'a fait. Et Jésus a été toujours respectueux de son Père, à l'écoute de son Père, en obéissance à son Père. Et il a pu aller à la croix. Il est dit, avant la croix, que Satan a voulu l'attaquer. Il a tout fait pour l'attaquer. Mais il n'a rien trouvé en Jésus. Vous voyez, il n'a rien trouvé en lui. Mais nous, il trouve un tas de choses. C'est pour ça qu'on est à l'église aussi, pour se reprendre. On a besoin de se reprendre les uns les autres, dans l'amour. Mais nous, on a un tas de choses qui ne sont pas de Dieu. Et c'est pour ça que l'ennemi a un accès en nous. Donc il faut veiller à cela et rester dans l'humilité, accepter qu'on se reprenne les uns les autres. Nous, maintenant, on a nos mentors, hein, Jean Brunet, Jean-Marc, qui peuvent parler dans nos vies, et on est heureux d'avoir ça, et d'autres personnes, mais on est aussi heureux d'avoir vous. N'hésitez pas, et je sais que vous n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui ne vont pas, ou à Michel, etc. On a besoin, parce qu'on est humain. Amen. Il n'y a que Jésus qui est parfait. Amen. Alors, prions. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as montré un modèle que nous devons suivre, mais nous avons besoin de ton esprit, Seigneur, pour que nous puissions être appuyés sur ta parole et sur elle seule, qui doit être la norme, qui doit être, Seigneur, le phare, qui doit être, Seigneur, la direction dans laquelle nous devons aller. Et que cette parole, Seigneur, soit plus forte dans nos désirs que n'importe quelle nourriture de ce monde. Seigneur, que cette crainte respectueuse de Dieu soit notre lot et qui nous garde, Seigneur. Je sais que John Huber était dans cette attitude et il était gardé des erreurs de son temps. Seigneur, merci aussi parce que tu veux que toute idole, Seigneur, soit arrachée de nos vies pour que nous puissions vraiment t'adorer toi seul. Merci Seigneur, fais-le, nous te donnons la liberté de le faire. Alléluia. Je sens vraiment que le Seigneur nous demande une détermination parce que nous ne sommes pas des robots. Donc tous ceux qui veulent vraiment laisser le Seigneur dans ces trois priorités de leur vie, simplement se lèvent à leur place et ouvrent les mains comme ça en disant « Seigneur, je veux te laisser ». Que ces trois priorités soient vraiment les priorités de ma vie pour que je puisse résister à toutes les attaques de l'ennemi, que je puisse être vainqueur dans le nom de Jésus.